Dans la Bible, on en parle plutôt comme le repas du Seigneur. Dans le mode protestant, on parle de la Sainte Cène. J'aimerais vous proposer simplement qu'on puisse un peu... Alors, pour certains, ça sera de la révision, et pour d'autres, ça sera peut-être nouveau. J'espère que ce ne sera pas quand même trop de la révision et que vous aurez quelque chose de nouveau pour qu'on puisse vivre ces temps avec quelque part plus de profondeur. Oui, désolé pour les micros qui sifflent un peu, ça va ? Ouais. Je vais commencer par trois lectures. Alors, désolé si c'est un peu long, mais vous savez que c'est le temps le plus important de la prédication finalement. Le temps où on lit la parole de Dieu, les commentaires qu'on fait sont toujours un peu moins importants que la parole de Dieu elle-même. Alors d'abord, trois versets bien connus dans l'évangile de Matthieu, verset 26 du chapitre 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et puis ensuite, deux lectures, dont la première aux Corinthiens. Donc d'abord au chapitre 10. Alors, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 16. La coupe de reconnaissance par laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous ? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous ? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Voilà. Un passage qui reprend en fait la liturgie ancienne des premiers chrétiens, avec cette expression de coupe de remerciement, de coupe de reconnaissance. Et puis cette expression que je trouve assez belle, nous formons un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Littéralement en français, ça veut dire qu'on est des copains. Vous connaissez cette expression, copains, ça veut dire ceux qui partagent le pain ensemble. Ouais. Et puis un autre texte aussi assez connu, dans 1 Corinthiens 11, c'est une lecture un peu plus longue. On va lire à partir du verset 17 et jusqu'au verset 32. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul à cette église de Corinthe. « Puisque j'en suis aux directives concernant vos réunions, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. » Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute, faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler ça « prendre le repas du Seigneur ». Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'esprit, l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang, faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Voilà, trois lectures un peu longues. Vous avez constaté que dans cette troisième lecture, ce n'est pas vraiment un texte d'enseignement sur le repas du Seigneur, c'est plutôt un texte où Paul corrige un problème dans l'église de Corinthe. Alors en passant, il nous donne beaucoup d'enseignements importants sur ce temps important de nos cultes. Ouais. Vous voyez qu'en particulier, il reprend l'enseignement de Jésus lui-même, perpétué par les apôtres dans le dernier repas, juste avant la Pâque. Mais vous voyez bien que Paul ici ne dit pas tout, il veut surtout corriger certaines dérives de l'église de Corinthe, qui sont quand même des dérives qui posent des gros problèmes, puisqu'il dit que les cultes de Corinthe rendent les chrétiens pires plutôt que meilleurs. Alors, j'ose espérer que nos cultes nous rendent plutôt meilleurs que pires, mais voyez ce qu'il dit, c'est une possibilité d'un culte chrétien de quelque part déraper et de faire que les gens deviennent pires. Alors, par souci un peu de clarté ou de pédagogie, je ne sais pas comment il faut le dire, j'espère que je serai clair. Je vous propose de présenter ces trois passages un petit peu ensemble, en prenant les trois sens principaux de la Sainte Cène, et puis on va donc un peu se promener dans ces trois passages bibliques, et présenter les trois sens de la Sainte Cène. D'abord, c'est faire mémoire de la mort de Jésus pour nous. Ensuite, c'est être en communion ensemble. Et puis ensuite, c'est nous préparer au royaume de Dieu qui vient. Anticiper le royaume. C'est un peu les trois sens. Faire mémoire, être en communion, et puis anticiper la venue du Seigneur. Ouais. Avant de prendre ces points les uns après les autres, on va surtout prendre du temps sur le premier, mais les deux autres aussi. J'aimerais juste faire un tout petit peu de vocabulaire d'abord. Vous avez vu que dans ces textes de la Bible, le terme utilisé, c'est le repas du Seigneur. C'est le terme principal. Qui s'explique assez facilement, d'abord parce que c'est un repas comme Jésus l'a fait. Comme il l'a fait à la dernière Pâque, mais comme il l'a fait par exemple aussi à Emmaüs. C'est le repas comme Jésus, si vous voulez. C'est aussi le repas du Seigneur parce que, comme je l'ai dit, on anticipe le repas qu'on prendra avec le Seigneur au ciel. On nous présente souvent la fin des temps comme une immense fête au ciel, et puis on se prépare à ce repas que le Seigneur nous a préparé. Dans ce sens-là, c'est le repas du Seigneur. Une autre expression qui est utilisée, c'est le terme de remerciement, coupe de remerciement ou coupe de bénédiction. Le terme grec pour dire remercier, c'est eucharistéo, qui a donné le terme Eucharistie dans les églises catholiques. Ça veut simplement dire remerciement. Et moi j'aime bien cette expression, un temps de remerciement. Ouais. Autrement dit aussi un temps de joie. Un temps de joie où on se réjouit de ce que le Seigneur a fait pour nous. Une petite note en passant, hein. Lorsque vous participez à une messe catholique, je vous encourage à vous abstenir de l'Eucharistie, surtout parce que les catholiques en donnent un sens différent de nous, et je pense différent de ce qu'on enseigne la Bible. Et puis, accessoirement, c'est en principe interdit. Dans les églises catholiques, il faut être baptisé catholique pour pouvoir prendre l'Eucharistie. Et puis, il ne faut surtout pas avoir quitté l'église catholique. Donc, si vous avez quitté une église catholique pour devenir membre d'une église protestante comme la nôtre, en principe, il vous est interdit de participer à la messe. Et par respect pour nos frères catholiques, on respecte aussi leurs règles. Alors c'est un peu différent dans le monde protestant où la règle n'est pas tant d'avoir été baptisé dans nos églises que d'avoir compris profondément le sens de la mort de Jésus pour nous. C'est ça qui compte. Et puis encore un dernier mot, c'est le terme de Sainte-Cène qui n'est pas un mot biblique. Pourtant c'est le mot qu'on utilise souvent le plus souvent dans le monde protestant et évangélique. Littéralement le mot scène ça veut dire souper, repas du soir. C'est pas dans la Bible parce que c'est un mot latin et la Bible est écrite en grec et en hébreu. Hein. Repas du soir parce que au temps des premiers chrétiens, on avait un culte le matin tôt, ensuite les gens allaient travailler et le soir ils avaient un repas ensemble et pendant ce repas du soir, ils partageaient le pain et le vin, ils partageaient le repas du Seigneur. D'où l'expression qui est restée de partager la Sainte-Cène, Cena. Voilà, j'espère que ça clarifie un tout petit peu pourquoi on parle parfois de repas du Seigneur, parfois de Sainte-Cène, et pour d'autres, d'Eucharistie. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y a trois sens principaux à ce temps qu'on vivra tout à l'heure ensemble. Faire mémoire, communier, et puis anticiper le retour de Jésus. Alors, le premier terme, c'est faire mémoire. Vous avez vu que dans les textes qu'on a lus, c'est assez solennel. Jésus donne cet ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Et même toutes les fois où vous en boirez. On sait bien que pour Jésus, c'était quand même des circonstances très solennelles, très importantes. C'est le dernier temps qu'il a avec ses disciples avant sa mort. Et quand on lit les évangiles, on se rend bien compte que Jésus fait des gros efforts pour être sûr d'avoir encore ce dernier temps avec ses disciples et de ne pas se faire arrêter avant. S'il garde secret le lieu du repas, si vous connaissez ça dans les évangiles, hein, c'est en grande partie à cause de ça. Il tient à avoir ce dernier temps spécifique avec ses disciples. C'est surtout l'évangile de Jean qui nous raconte tout l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples ce jour-là. Et donc dans la même nuit où il va être livré, pour ensuite être jugé et mis à mort, Jésus va célébrer un repas de fête juive, mais un repas de fête juive en avance, puisque la Pâque juive se fête le vendredi soir et que Jésus va le fêter le jeudi soir. Ouais. Et on va peut-être lire ce passage où l'apôtre Paul rappelle les enseignements des disciples qui ont eux-mêmes entendu Jésus, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant : ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Voilà. Je pense que les passages bibliques sont assez clairs. Le sens du pain, c'est un symbole du corps du Christ qui a été brisé et donné pour nous. Et le symbole du vin ou du jus de raisin, c'est le symbole d'une nouvelle alliance que Dieu fait avec nous. Je pense que le sens est assez clair. Jésus va mourir pour nous. Son corps sera brisé comme on brise du pain. Ouais. Et puis une nouvelle alliance parce que ça veut dire que l'ancienne alliance qui avait été faite avec Moïse est une alliance qui est caduque parce que les hommes, les juifs en l'occurrence, ont désobéi à cette alliance. Cette alliance est brisée, mais Dieu offre une nouvelle alliance. Ouais. Une nouvelle alliance qui inclut en particulier que nous sommes le peuple de Dieu, que nous appartenons tenant à Dieu. Et c'était déjà le sens de l'ancienne alliance, c'est le sens de la nouvelle alliance. La grande différence, c'est que l'ancienne alliance était uniquement pour le peuple juif, et la nouvelle alliance est pour tous les croyants. Après, ça veut dire quand on célèbre la Sainte Cène, on se rappelle qu'on a fait une alliance avec Dieu, qu'on lui appartient, et parce qu'on appartient à Dieu, ça implique quelque part une certaine manière de vivre. On fait mémoire de circonstances très solennelles, donc c'est un temps solennel, j'allais dire plutôt sévère, on se rappelle d'une mort, mais on se rappelle aussi de la résurrection de Jésus et de sa vie. Je me rappelle un ami qui avait travaillé avec les collégiens, il disait, on a parlé de la Sainte-Cène avec les collégiens, et c'était étonnant, ils ont tous beaucoup parlé de la mort de Jésus, il n'y en a aucun qui a parlé de sa résurrection. Et il avait raison quelque part. La Sainte-Cène, c'est avant tout un temps de joie, où on fête la résurrection de Jésus, où on fête la vie que Jésus nous donne pour l'éternité. Nous mangeons et buvons pour nous souvenir à la fois de ce que Jésus a fait pour nous et nous souvenir aussi que ça nous concerne à nous personnellement. Aussi concrètement qu'on mâche et qu'on boit, ça nous concerne personnellement. On a besoin de laisser la vérité de l'œuvre de Jésus remplir tout notre être comme on le fait quand on mange quelque chose. L'image de la présence du Saint-Esprit, c'est souvent la respiration, le souffle de vie. Et que l'image de la présence de Jésus, c'est manger et boire. Deux exemples qui nous sont donnés pour dire qu'on est appelé à une relation très intime avec Dieu. Une relation qui nous implique tous les jours, mais aussi quelque chose qui nous est vital. Quand on arrête de respirer, ça ne nous réussit pas très longtemps. Quand on arrête de manger et de boire, ça ne marche pas non plus très longtemps. Nous devons nous rappeler que notre relation à Jésus est vitale. On ne peut pas s'en passer. Et c'est aussi cela qu'on fête quand on prend la Sainte Cène. Nous avons absolument besoin du Seigneur. Bon, quelques éléments un peu concrets quand même, avant d'aller plus loin. Parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Pourquoi est-ce que c'est du pain et du vin, plutôt qu'une bonne fondue, par exemple, ce serait sympa, ou qu'un couscous, je ne sais pas, hein. Pourquoi du pain et du vin ? Alors la réponse un peu facile, c'est que c'était un repas juif, et donc Jésus a pris ce qui fait partie d'un repas juif, du pain et du vin. Bon. Maintenant, vous remarquerez que dans les plats juifs, ou dans les Pâques juives, il y a aussi un agneau et des herbes amères, et puis ça, Jésus ne l'a pas pris. Il n'a pas pris non plus les œufs en chocolat, par exemple. Pourquoi Jésus a pris seulement le pain et le vin dans ce repas de Pâques ? Je crois en partie, parce que Jésus voulait que ça soit un rappel permanent. En Israël, à l'époque de Jésus, on mange du pain et on boit de l'eau coupée de vin au moins deux fois par jour. Par contre, on mange de la viande pas très souvent. Une ou deux fois par an peut-être. Le Seigneur voulait qu'on se rappelle chaque jour, concrètement dans notre vie, de ce qu'il avait fait pour nous. Il voulait aussi que la vie avec Jésus, ça soit pour tous, pas seulement pour ceux qui peuvent faire des repas de luxe quelque part, hein, ou des repas de fête, mais pour chacun d'entre nous. Le pain, c'est la nourriture ordinaire. Ouais. Et je pense pour nous aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, je trouve que c'est un bon rappel à ne pas entrer dans cette espèce de course à toujours plus. On nous pousse beaucoup à ça. Il faut plus, il faut mieux, et voilà. Ouais. Et on nous rappelle que ce que nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. C'est des choses concrètes, comme le pain de tous les jours. Ouais. Et Jésus a sans doute pris de l'eau coupée de vin, parce qu'à l'époque, on mélangeait de l'eau et du vin pour purifier l'eau. Parce qu'il est difficile d'avoir de l'eau potable. Ouais. Aujourd'hui, on met du chlore dedans, c'est un peu moins sympa que le vin, je pense. Ouais. Jésus a pris du pain ordinaire, du pain de tous les jours, ou du pain de Pâques pour eux. En pratique, certains chrétiens tirent la conclusion qu'il faut du pain habituel, de notre table habituelle. C'est ce qu'on fait à Chartres. Hein. D'autres vont dire qu'il faut surtout mettre l'accent sur le fait que c'est un repas solennel et important, donc ils vont prendre un pain spécial, par exemple du pain azyme. Vous avez vu que c'est un des problèmes des Corinthiens. Ils font une confusion entre célébrer ce temps de Sainte-Cène pour se rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus et le fait d'avoir un pique-nique en commun. Et ils mélangent les deux. Et c'est important de nous rappeler, on ne va pas prendre un pique-nique. On va célébrer la mort de Jésus. Donc bon, certains prennent le pain habituel, d'autres prennent un pain qui ne l'est pas. Bon, voilà. Vous comprenez bien que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que nous soyons profondément conscients de ce qu'on fait. Ensuite, vous avez vu aussi que dans ces textes de Paul, il y a des avertissements très sévères. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Voilà. Des paroles très sévères, hein ? On nous parle de condamnation, on nous parle de manger et de boire indignement, ou encore d'être coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Dans la suite, on nous dit que ça peut provoquer des maladies. Et puis au début, comme je l'ai dit, on nous dit que le culte peut servir à nous rendre pire. Ouais. Des expressions qui nous mettent quand même pas forcément très à l'aise, alors qu'on est censé faire un repas de fête, hein. Je pense que ce qui est clair, c'est qu'on nous rappelle que dans le temps de Sainte-Cène, on est appelé à se repentir, à s'examiner sérieusement, comme dit ce passage. S'examiner dans le but de pouvoir participer, mais s'examiner sérieusement. On court toujours le risque de s'aveugler soi-même sur nos péchés, et parce qu'on s'aveugle soi-même, on devient de pire en pire. Et pour ça, on doit s'examiner, dans le but d'amener au Seigneur nos péchés et de lui demander de changer nos vies, pour pouvoir ensuite célébrer joyeusement ce temps de pardon. Ici, l'apôtre Paul a en particulier en vue un élément, qui est, ou deux éléments. Dans ce chapitre, il se préoccupe surtout de chrétiens qui, en même temps qu'être chrétiens, vont au culte des idoles, qui font un mélange entre les deux. Et nous devons être très attentifs. Est-ce que nous croyons vient vraiment de la Bible ou est-ce qu'on a mélangé des choses? Et puis dans la suite, il y a notamment le chapitre 13 qui parle des relations dans l'Église. Nous sommes appelés à nous aimer de manière radicale. Et nous sommes appelés en particulier à nous examiner sur ces deux points-là. Est-ce que ce que je crois vient vraiment de la Bible? Est-ce que je suis prêt à m'engager à aimer les gens qui m'entourent? Maintenant, si on revient au texte un peu plus directement, cette expression de manger dignement et indignement ne s'applique pas en priorité à notre péché personnel. Il s'applique surtout ici à la manière de prendre le repas du Seigneur. Vous avez vu dans ce passage, hein ? On est appelé à vivre ce temps de Sainte-Cène en nous rappelant ce qui signifie. On se rappelle la mort de Jésus. On se rappelle qu'on est en communion avec les autres chrétiens et on prépare le futur avec Jésus. Ouais. Et Paul rappelle en particulier qu'on doit discerner que nous sommes ensemble le corps du Christ. Ça qu'il dit, hein. On doit discerner que nous sommes ensemble le corps du Christ. Et non pas que le pain est le corps du Christ, mais que nous sommes l'Église, le corps du Christ. C'est ça qu'on dit. On ne s'attend pas que Jésus soit dans du pain, comme on ne s'attend pas que Jésus s'incarne dans une porte quand Jésus dit « Je suis la porte ». Vous comprenez, hein ? Il dit « Je suis le pain de vie », il dit « Je suis la porte ». Oui, bon. Hein ? Mais le corps de Christ, on sait ce que c'est. C'est l'Église du Seigneur. Nous sommes le corps du Christ. On ne peut pas prendre ce repas ensemble si on se comporte comme des étrangers ou des ennemis les uns pour les autres. Prendre ce repas, c'est au moins décider de vivre comme des chrétiens, frères et sœurs des autres chrétiens. Ouais, ça avant tout ça. Prendre le repas du Seigneur dignement. Se rappeler que nous sommes vraiment frères et sœurs et en tirer les conséquences. Ça me permet de glisser sur le deuxième point, n'est-ce pas ? La question de la communion entre nous. Et on va relire le passage de 1 Corinthiens 10 que j'ai lu tout à l'heure. La coupe de reconnaissance par laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Ouais. Nous sommes une seule famille, un seul corps avec les chrétiens du monde. Il y a actuellement à peu près 2,1 milliards de chrétiens, dont 550 millions d'évangéliques. Nous sommes ensemble le corps du Christ. Ouais. Vous avez vu, dans le contexte de l'épître aux Corinthiens, on parle d'un repas communautaire qui humilie les membres les plus pauvres de l'assemblée. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? D'abord, comme je l'ai dit, ils n'avaient pas des cultes le dimanche matin, parce qu'ils travaillaient le dimanche. Hein. Donc, ils avaient un repas le soir, ensemble. Et à l'époque, ils n'avaient pas non plus de lieu de culte, comme nous. Donc, ils se réunissaient dans les maisons des plus aisés, qui étaient les seuls à avoir des maisons suffisamment grandes pour rassembler tout le monde. Mais les riches, à l'époque, ne travaillaient pas, ou pas beaucoup. Ils pouvaient donc commencer à manger quand ils voulaient. Voilà. Et c'est manifestement accepté dans cette culture. Les riches sont chez eux, donc ils font comme ils veulent, quoi, quelque part. Hein. Et dans les repas habituels des sociétés grecques de l'époque, il est normal que le propriétaire accueille dans son salon ses amis les plus proches. Au maximum 10 personnes, d'après ce que les archéologues trouvent de taille des maisons. Donc il y a 9 ou 10 personnes qui sont avec lui dans le salon, où on mange les repas les meilleurs, et les autres sont dans la cour intérieure couverte, où on a un repas plus simple. Voilà. Alors pour la plupart des chrétiens de Corinthe qui sont des esclaves, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est même beaucoup, parce que d'habitude ils mangent dans la cuisine. Donc déjà, pouvoir manger dans la cour intérieure, même si c'est des choses plus simples, pour eux c'est déjà beaucoup comme accueil. Le problème ici dans cette histoire, c'est que les riches font, à leur manière comme d'habitude, sans du tout penser aux autres. Et c'est ça le problème. Vous avez déjà remarqué pour vous hein, que c'est souvent ça qui nous blesse le plus. Quand les autres vivent à côté de nous comme si on n'était pas là. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et on a là des chrétiens dans cette église de Corinthe qui font les trucs comme ils ont l'habitude, comme ça leur plaît, ils ne se préoccupent pas du tout de ceux qui sont à côté dans la pièce. Alors qu'ils sont justement en train de fêter un temps où ils se rappellent qu'ils sont un seul corps, le corps de Christ. Le professeur Bloomberg a proposé une actualisation de ce passage, parce que nous, on ne prend pas nos repas communautaires, c'est de la même manière que les Corinthiens, et on partage la Sainte-Seine différemment. Mais voici ce que le professeur Bloomberg écrit, et je trouvais très pertinent. Lorsqu'on réalise que les excès décrits, donc dans l'Épître aux Corinthiens, se produisaient durant les repas communautaires et aux dépens des chrétiens pauvres, on comprend que manger et boire d'une manière indigne s'applique dans notre culture moderne à quiconque participe sans hésiter au repas du Seigneur sans jamais faire don d'une partie de son superflu aux pauvres. Vous comprenez ce qu'il dit ici ? Dans notre culture moderne, ça s'applique à quiconque participe sans hésiter au repas du Seigneur, sans jamais faire don d'une partie de son superflu aux pauvres. Voilà. Comment est-ce que ça veut dire prendre le repas du Seigneur d'une manière digne? Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous appartenons au Christ, nous sommes liés les uns aux autres et on en tire les conséquences. Voilà. Concrètement, dans notre église, quand on partage le repas du Seigneur, on se passe les plateaux les uns aux autres. Et c'est à cause de ça qu'on se passe les plateaux les uns aux autres. On se rappelle qu'il n'y a pas des prêtres et des laïcs, des gens plus spirituels et des moins spirituels, voyez ? On est tous le corps de Christ, et donc on a tous habilité à donner le repas du Seigneur à notre voisin. Ouais. On se rappelle aussi que dans le corps de Christ, on est tous appelés à donner et à recevoir. Y compris à donner et à recevoir de gens que je n'ai pas forcément choisis. Je ne suis pas toujours assis à côté de quelqu'un que j'ai choisi. Mais je me souviens qu'il fait partie du corps de Christ. Donc je suis prêt à recevoir de lui ou à lui donner. Nous sommes le corps du Christ et le corps du Christ passe au-dessus de tout le reste. Au-dessus de ma couleur de peau, au-dessus de ma culture, au-dessus de mes préférences de jambes. C'est normal que j'ai des amis plus que d'autres. Mais je suis d'abord chrétien, j'appartiens au Seigneur. Celui qui est assis à côté de moi, c'est aussi un chrétien comme moi. Voilà. Et donc je vous encourage vraiment, quand vous passez le plateau, à faire comme chez vous. Quand vous passez les plats chez vous, vous ne passez pas le plat juste comme ça, hop, passez le plat à toute vitesse pour tout de suite pouvoir prier de nouveau. Vous voyez ? On passe le plat, on dit quelque chose, ou au moins on fait un sourire. C'est comme ça qu'on fait quand on est à table. Vous voyez ? C'est ce que nous avons aussi à faire ensemble. Et trop souvent, alors à juste titre, on met l'accent sur la nécessité de prier et d'être avec le Seigneur et à se repentir. Et bien sûr, on a à le faire pendant le temps de Sainte-Cène. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie l'autre partie. C'est un temps que nous vivons ensemble. Je peux être tout seul chez moi. Vous, vous n'êtes pas chez moi tout le temps, quoi. Hein, voilà. Et c'est important, passez-vous les plateaux. Voilà comme vous faites chez vous quand vous passez le plat à votre voisin. Ouais. Pas avec un regard qui dit débarrasse-moi de ça, j'aimerais prier, mais avec un sourire, je suis heureux de manger ensemble. Excusez-moi si j'utilise ces expressions comme ça un peu. Bon. Et je vous encourage à réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez dire à votre voisin quand vous lui passez le plateau. Vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose, hein. Parfois un sourire dit beaucoup plus de choses que des paroles. Mais on peut profiter de dire une parole. Tu sais, le Seigneur t'a vraiment pardonné. Le Seigneur est vraiment avec toi. T'es précieux pour Dieu. Ouais. Vous avez peut-être à côté de vous quelqu'un, vous savez, qui passe par un temps difficile. Qu'est-ce que vous allez lui dire qui va l'encourager ? Une autre question très pratique, rapidement. On a beaucoup débattu dans nos églises de qui pouvait présider la Sainte-Cène et de qui pouvait distribuer la Sainte-Cène. Vous avez vu que dans ces passages bibliques, on ne nous dit rien. On ne nous donne aucune précision sur ce domaine-là. Mettons, je pense que c'est là où on peut appliquer un petit peu de bon sens sanctifié, comme on dit. Hein. Qui peut présider quelqu'un qui a compris le sens de la Sainte-Cène et qui peut l'expliquer? Donc quelqu'un à la fois qui est assez mûr dans sa foi pour comprendre et assez pédagogue pour pouvoir l'expliquer. Ça représente déjà quand même pas mal de monde, hein. Mais ça, c'est les règles. Quelqu'un qui a compris et qui peut l'expliquer. Et qui peut distribuer, je pense, soyons concrets, c'est aussi quelqu'un qui a compris de ce qui se passe et au minimum qui a suffisamment de bon sens pratique pour distribuer à tous et vérifier que chacun est servi. C'est logique, hein. Ouais. Enfin, la Sainte-Cène, c'est faire mémoire de la mort de Jésus, c'est se rappeler que nous sommes ensemble le corps du Christ, puis c'est aussi anticiper l'avenue du royaume. Si je le relis juste le verset 26 dans 1 Corinthiens 11, « Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » On est en train de se préparer à l'avenue du Seigneur. Ouais. Et on s'y prépare avec joie. On se réjouit d'être avec le Seigneur au ciel. Sachant que c'est là où il faut mettre un bémol. On se réjouit de l'avenue du Seigneur à condition d'appartenir à Jésus. Paul rappelle aussi qu'il y aura un jugement. Et que l'avenue de Jésus est une bonne nouvelle pour ceux qui appartiennent à Jésus, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les autres. Je suis parfois mal à l'aise quand on chante « Ô épidée » dans les mariages, parce que c'est « Ô épidée », autrement dit « Quel jour joyeux quand Jésus va revenir ». Et puis la plupart des gens qui chantent ça ne se réjouissent pas du tout de l'avenue du Seigneur. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle si on dit « Le repas du Seigneur c'est pour tout le monde », on dit « C'est pour tous les chrétiens ». Ce n'est pas pour les autres, parce que ce n'est pas un signe de joie pour eux. C'est aussi, voilà, ça vous savez où vous en êtes avec le Seigneur. Hein. C'est un signe pour les chrétiens de se rappeler que nous serons toujours avec Christ, et ça implique qu'on s'y prépare. Moi j'aime à dire que je travaille pour être le moins dépaysé possible au ciel. Nous sommes appelés à être des étrangers sur cette terre et des citoyens du royaume des cieux. Et très souvent, en tant que chrétien, on fait l'inverse. On vit comme si on était des citoyens de la terre et des étrangers au ciel. Nous nous rappelons, en prenant la Sainte-Cène, que nous sommes voyageurs sur cette terre et citoyens du ciel. La Sainte-Cène s'enracine dans un événement historique du passé. Jésus est mort pour nous. Et s'enracine dans un événement historique du futur. Jésus va bel et bien revenir bientôt. et que je prends la Sainte Cène, je proclame cela. Je proclame que Jésus est mort pour moi et je proclame qu'il revient bientôt. Nous partageons le repas du Seigneur en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous, en communion les uns avec les autres et en anticipation de la fête que Jésus nous prépare au ciel. Je voudrais vous inviter à prier et ensuite on partagera le pain et le vin.